Alors, il y a des prédications parfois qui sont des exhortations concrètes pour notre vie de tous les jours, et puis il y en a d'autres, c'est moins le cas, c'est peut-être un peu plus informatif, mais je crois pas moins utile. En tout cas, c'est le cas de cette prédication ce matin, plus un enseignement qu'on peut garder en soi pour comprendre des choses, mais un enseignement utile. Le 12 avril dernier, nous avions notre Assemblée Générale. Et nous nous apprêtions à nous réunir, à discuter de choses et d'autres très concrètes, très terre-à-terre pour l'administration de notre Église, enfin terre-à-terre tout en gardant ce côté spirituel, cette vision en tout cas, mais nous n'attendions pas à ça. Un jeune homme que certains connaissaient, d'autres pas, est venu et a demandé la prière parce qu'il pensait être aux prises avec un démon. Et là, nous avons été surpris, certains d'entre nous, de nous trouver dans cette situation à laquelle nous sommes assez peu confrontés, finalement. Et je me disais ce matin que nous pouvions nous pencher sur la question. Plusieurs personnes écrivent des livres basés sur leur expérience de combat des démons, mais que dit la Bible à ce sujet ? Toujours intéressant de fonder notre pratique, ce que nous faisons, sur la Bible. Et je vous invite à lire un récit qui se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 16. À partir du verset 16, Actes 16, verset 16 jusqu'au verset 19. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit pitique et qui, par ses divinations, procurait un gain important à ses maîtres, est venue au-devant de nous. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant « Ces gens sont des esclaves du Dieu Très-Haut, ils vous annoncent la voie du salut !» Comme elle faisait cela depuis plusieurs jours, Paul, excédé, a fini par se retourner pour dire à l'esprit, par le nom de Jésus-Christ, « Je t'enjoins de sortir d'elle. » Et il est sorti à ce moment même. Voyant disparaître leur espoir de gain, les maîtres de la servante saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique devant les chefs. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Alors, je pense déjà qu'il faut replacer ça un peu dans le contexte. Hein. On attaque comme ça avec un « nous », un pronom personnel « nous » qui est là. De qui parle ? De qui parlons-nous ? Nous sommes avec Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Paul est parti après sa conversion pour évangéliser les païens, ceux qui ne sont pas juifs. Et donc comme ça, il est allé de ville en ville, annoncer le salut en Jésus-Christ, annoncer ce que Jésus a fait. Il est parti avec Barnabé, un chrétien mûr, solide et volontaire de l'église de Jérusalem. Ils sont partis tous les deux et ils sont revenus enthousiastes. Enthousiaste de voir l'œuvre du Seigneur, que après toutes ces années où le salut, la connaissance de Dieu, la relation avec Dieu était limitée à un petit peuple, le peuple d'Israël, eh bien, cette relation avec Dieu s'ouvrait au monde entier. Que les païens y répondaient, que tous y répondaient, qui recevaient le Saint-Esprit et qu'ils étaient capables à leur tour de faire de grandes choses sans distinction d'origine, de race, de couleur de peau, de langue, sans aucune distinction. Et donc ils sont revenus enthousiastes à Jérusalem et ils veulent repartir. Mais bon, ça ne se passe pas comme ça et il y a une dispute entre eux, un conflit entre Paul et Silas. Et finalement, entre Paul et Barnabé, ils se séparent. Et c'est avec Silas que Paul repart pour aller visiter ces villes, ces églises qui ont été fondées. Et Timothée le rejoindra. Si vous étiez là la semaine dernière, on a parlé de Timothée, du fait que Timothée était là pour ce deuxième voyage missionnaire. C'est là qu'il arrive pour aller visiter les églises, les fortifier, faire un deuxième passage, voir où ils en sont. Puis aller dans d'autres villes aussi, voir pour développer l'œuvre du Seigneur. Et puis, le pronom personnel qu'on a lu, c'était « nous », c'était pas « il ». C'est que l'auteur, Luc, est là également. Donc il y a au moins quatre personnes dans ce groupe missionnaire. Paul, Silas, Timothée et Luc. Et là, ils arrivent dans une ville, dans la ville de Philippe, un peu plus tôt, dans le chapitre. En fait, Paul a vu dans une vision qu'il fallait aller plus loin, dans des nouvelles villes, pour parler à encore plus de monde. Et donc, ils vont plus loin et ils arrivent dans la ville de Philippe. Et ils font toujours pareil, toujours ce qu'ils font quand ils arrivent dans une ville comme ça, qui n'est, où il n'y a pas d'église. Ils commencent par rechercher les Juifs, là où se réunissent les Juifs. Les Juifs parce que les Juifs connaissent Dieu. Ils connaissent tout son programme, tout ce qu'il annonce, et c'est une bonne base pour fonder une église que de s'appuyer sur ceux qui le connaissent déjà. Et puis, une fois qu'ils ont enseigné les Juifs, eh bien, ils se tournent vers d'autres pour élargir l'église et élargir au monde entier. Et donc, ils font ça à Philippe, et ça commence plutôt bien. Ils trouvent un lieu de prière, un lieu où se réunissent les Juifs, près d'une rivière, et ils commencent à parler de là, et la parole est plutôt bien reçue. Il y a des chrétiens qui sont là, qui accrochent bien et qui sont intéressés et qui s'encouragent. Bref, il y a le noyau d'une église qui se forme. Et c'est à ce moment-là que se passe notre récit, qu'il se passe quelque chose de bizarre. Un jour, il croise une jeune fille. Le terme grec parle d'une jeune servante, une jeune esclave, peut-être une enfant. Il croise une jeune fille qui marche vers eux alors qu'ils sortent de la ville pour se rendre vers la rivière, vers le lieu de prière, comme ça. Et puis, il la croise, et puis elle fait demi-tour, et elle se met à les suivre en criant. En criant, nous l'avons lu, voilà, ces hommes sont des esclaves du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. Ça n'a pas l'air faux ce qu'elle raconte, mais quand même, avoir ce haut-parleur là, toujours derrière, c'est assez stressant. D'autant plus que quand on lit la façon d'évangéliser de Paul, il aime bien être dans la finesse. Voir ses interlocuteurs, comprendre leurs préoccupations, pas leur balancer le message avec un marteau, mais comprendre leurs préoccupations et les amener à ça. Et là, il y a quelqu'un qui vient juste lui couper la parole tout le temps et faire du bruit. C'est assez énervant. Et ça dure comme ça pendant plusieurs jours. Et un jour, il en a marre. Il en a marre, il se retourne et il dit à l'esprit de sortir par le nom de Jésus-Christ. Et là, comme ça, instantanément, ça cesse. Il y a un changement. Ceux qui étaient présents, les témoins de la scène, voient l'esprit est sorti. Qu'est-ce qu'ils ont vu exactement? Comment ça s'est manifesté? On ne sait pas, en tout cas, il n'y avait pas de doute. Ce petit manège a duré plusieurs jours. Et ça, c'est une grande question que je me pose en étudiant ce texte. Pourquoi est-ce que ça a duré aussi longtemps? Pourquoi est-ce que Paul et ses compagnons ont usé de tant de patience pour quelque chose d'irritant? Et pourquoi, au bout d'un moment, la patience a atteint sa limite? En plusieurs jours, je pense qu'ils ont eu le temps de se renseigner. Je pense qu'au départ, ce n'était pas évident que la jeune fille soit possédée. Ils ont demandé à droite, à gauche, ils avaient des contacts dans la ville. Ils ont demandé qui est cette jeune fille, pour prendre des renseignements sur elle. Cette jeune fille a un esprit pitique, c'est ce qui est écrit dans ma version. C'est un mot un peu compliqué qui fait référence à la culture grecque. Un esprit de divination. Elle était là et elle disait l'avenir. Après, elle disait l'avenir, est-ce que ce qu'elle disait s'accomplissait vraiment ou est-ce que c'était du charlatanisme? On ne sait pas trop. On trouve dans la littérature grecque des gens qui parlent de ça et qui disent que c'est des charlatans, que ce qu'ils disent ne se passe pas. Mais elle, en tout cas, ça vient de quelque part. Et une autre chose qui est frappante, c'est que Paul et Silas et leurs compagnons ont dû apprendre en faisant leur enquête, c'est qu'il y a tout un commerce autour de cette jeune femme. Il y a tout un commerce, c'est une esclave, elle a plusieurs maîtres, il y a plusieurs personnes qui se sont mis d'accord pour exploiter ce talent, cette particularité. Et voilà, elle travaille pour faire de l'argent, et il y a plusieurs qui vivent de ça, qui tirent des richesses par rapport à ça. Et c'est des gens, on pense, hein, relativement puissants, puisque quand ils ne sont pas contents, à la fin du récit, ils vont voir les chefs et on se saisit de Paul et Silas. Et dans la suite du récit, on voit qu'ils ont gain de cause, que Paul et Silas sont en prison, etc. Donc c'est des gens influents. En étudiant ce texte, en lisant des commentaires, j'ai trouvé cette remarque très pertinente d'un commentateur qui dit que finalement le monde n'a pas beaucoup changé, qu'il y a toujours des jeunes filles qui sont exploitées, juste utilisées pour générer de l'argent, sans égard pour elles, sans égard pour ce qui leur arrive soit à leur âme, soit à leur corps. Et là, on est devant un cas d'une jeune fille exploitée par des personnages puissants qui... Et je pense que Paul voyait les conséquences potentielles d'un exorcisme. En tout cas, un jour, c'est trop. Et il demande à l'esprit de sortir, ce qui se passe instantanément, comme nous l'avons dit. Il n'y a plus de problème avec la jeune femme. Par contre, d'autres problèmes commencent, puisque on se saisit d'eux, on les juge, on les met en prison. C'est tout la suite du récit qui est assez en haut en couleur. Hein. Si vous êtes curieux, je vous invite à le lire. Il se passe encore de belles choses et on voit la puissance de Dieu dans la suite du récit. Mais quand même, je note qu'à la fin de ces péripéties, Paul et Silas sont innocentés, mais ils doivent quitter la ville quand même. Et le fait d'avoir fait sortir cet esprit à vue humaine, c'est pas le début de quelque chose de plus grand pour leur mission dans cette ville. C'est au contraire ce qui marque la fin de leur mission dans cette ville. Le fait d'avoir fait partir cet esprit, c'est ça qui va les faire être chassés. Après, l'œuvre dans la ville de Philippe restera, Dieu fera de grandes choses. Et nous avons dans la Bible une lettre qui est envoyée à l'église de Philippe, preuve que cette église a poursuivi son ministère, qu'elle a grandi, qu'elle a grandi en maturité, qu'elle a affronté d'autres problèmes. Mais ça, c'est une autre histoire. Et peut-être, si Dieu nous prête vie, nous aurons l'occasion d'étudier l'épître aux Philippiens. On s'arrête là, en tout cas, pour cette histoire. L'histoire d'une jeune femme qui était là avec un esprit qui la possédait, qui a été délivrée par Paul. Il y a peu de récits comme ça, de récits d'exorcisme dans la Bible. Mais on peut tirer quelques éléments pour nous permettre de comprendre ces situations. Et déjà, le premier élément, celui qui est évident, qui se voit comme le nez au milieu de la figure, mais qu'il faut noter, c'est que ça existe. Les esprits existent, la possession par un esprit existe. Si on croit en la véracité de la Bible, on est obligé de se rendre à l'évidence. Et ce n'est pas tant par la description qui est faite de la jeune femme qu'on voit que cette possession existe. Parce que bon, le texte parle d'un esprit pitique, mais comme je vous le disais, dans les littératures, on en parle pour d'autres. Le grec est comme le français, relativement riche sur ce terme, hein, et un esprit peut désigner à la fois un être spirituel qui a une influence sur quelqu'un, qui travaille sur quelqu'un, mais comme en français, il peut parler quelque chose de plus abstrait, comme on peut dire à quelqu'un qu'il a un esprit défaitiste, que c'est un esprit rebelle. Et donc, en grec, ça, un esprit, ce n'est pas forcément un être qui vient posséder, opprimer quelqu'un. La preuve de cette possession, je la vois vraiment dans la délivrance que vient apporter Paul. Parce qu'après cette délivrance, tout change du tout au tout. Et c'est la preuve qu'il y avait quelque chose que Paul a discerné avec justesse. Et après son action, la jeune fille est libérée. Non seulement son comportement a dû changer, puisque les témoins présents étaient là, mais ses maîtres, qui, je ne pense pas, étaient très favorables à l'évangile et n'ont pas intérêt à croire à cela si ce n'est pas vrai, ses maîtres sont très embêtés parce qu'ils n'arrivent plus à exploiter ce don qu'elle avait. Une deuxième preuve que tout a changé avec cette délivrance. Mais alors, comment est-ce qu'on reconnaît une possession ? Il y a des éléments, des indices, mais finalement, ce n'est pas si flagrant que ça. On voit dans ce texte l'indice d'une connaissance particulière. Cette jeune fille est capable de déclarer que Paul et Silas sont des esclaves du Dieu Très-Haut qui annoncent la voie du salut. Je ne pense pas qu'elle ait pris ça quelque part, c'est quelque chose qui vient d'ailleurs, la puissance qui est en elle qui le dit. Il y a aussi une hostilité à l'évangile. Elle est hostile à la mission de Paul et Silas. Elle était là, elle passait, et le texte nous dit, elle fait demi-tour pour les suivre, et après, elle n'arrête pas de les suivre pendant plusieurs jours. Elle est hostile. Elle veut gêner l'annonce de l'évangile. Elle a en elle une force qui la contrôle, qui lui fait faire des choses qu'elle ne ferait pas si cet esprit n'était pas en elle. L'esprit habite littéralement en elle et il lui arrive de perdre le contrôle de sa personne, comme ici, où c'est cet esprit mauvais qui lui fait crier des choses. L'esprit habite celui qui est possédé. Et il faut faire là une différence entre possession et oppression. Parce que nous sommes tous soumis à l'oppression du diable, des démons, des esprits qui vont essayer de nous faire chuter. La Bible est claire là-dessus. L'apôtre Pierre nous dit que le diable est comme un lion rugissant qui cherche qui dévorer. Il est là, il nous traque, nous tentant, essayant de nous faire tomber, mais son action est extérieure. Et on parle d'oppression. Là, l'action est intérieure, l'esprit est dans la jeune femme et lui fait faire des choses au-delà de son contrôle. Différence entre possession et oppression. Et cette différence, elle est importante parce que elle permet de souligner ici qu'un chrétien ne peut pas être possédé. Un chrétien ne peut pas être possédé par un esprit mauvais. Un esprit mauvais ne peut pas prendre le contrôle d'un chrétien. On ne trouve pas de cas dans la Bible où un croyant est ainsi contrôlé, mais le plus important, c'est que la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Dieu habite en nous. Dieu, le Très-Saint, le Dieu jaloux, le Dieu exclusif, peut-il cohabiter dans la même demeure avec un démon ? La réponse est dans la question. Bien sûr que non. Le croyant, le chrétien qui accepte Jésus, qui reçoit le Saint-Esprit, ne peut pas être posséder. Autre chose qu'on peut regarder dans ce récit, c'est l'exorcisme, cette action de faire sortir l'esprit. Et on est obligé de constater qu'il est très simple. Il n'y a pas de grand cérémoniel, de grand rituel, de tralala. Tout simple. Par le nom de Jésus, Paul enjoint, demande, ordonne à l'esprit de sortir et de quitter la personne. Par le nom de Jésus, il faut faire attention, le nom de Jésus n'est pas un nom magique. Et certains vont l'apprendre à leur dépens. Un peu plus loin, au chapitre 19, donc trois chapitres plus loin, il y a des juifs qui nous sont présentés comme les fils de Sceva, qui s'y essayent, ils trouvent ça cool. Donc ils vont essayer de chasser un démon au nom de Jésus. Pas de bol, le démon va leur dire « Jésus, je sais qui c'est, mais vous, je ne vous connais pas. » Et ils se jettent sur eux. Et il est même minable et ils n'ont plus qu'à partir. Ce n'est pas un nom magique, ce n'est pas une formule magique, par le nom de Jésus. Quand Paul dit par le nom de Jésus, c'est en relation, en lien avec la révélation de Jésus-Christ. C'est pour affirmer à tous que c'est sous l'autorité de Jésus-Christ qu'il agit. Ce n'est pas de façon magique. Et le résultat est immédiat. Il n'y a pas d'acharnement, il n'y a pas d'imposition des mains. Il n'impose pas les mains sur la personne démonisée. Et ça, vous pouvez le voir dans les évangiles, dans les actes des apôtres. Chaque fois que Jésus ou les apôtres sont face à quelqu'un qui a un démon, ils n'imposent pas les mains sur la personne. Imposer les mains, ils le font sur des malades, en signe de solidarité. Mais on n'est pas solidaire avec le démon. Il n'y a pas de discussion, de négociation avec l'esprit. Il ne lui demande pas comment il s'appelle, que sais-je. Non, un ordre tout simple. Au nom de Jésus, tu sors et c'est fini. Et on voit au passage que le diable et Dieu ne sont pas au même niveau. On essaye de nous faire voir un monde dualiste, avec Dieu pour le bien, le diable pour le mal, et les deux s'affrontent et on va voir qui va gagner. Non, le monde n'est pas comme ça. Il n'y a qu'un Dieu. Qu'un Dieu tout-puissant et créateur de toutes choses. Le diable, ses anges, les démons, les esprits sont des créatures. Ils ne sont pas les égaux de Dieu, ses concurrents. Il n'y a qu'un Dieu, il est tout puissant. Tout lui est soumis, y compris le diable et ses démons. Et par une simple parole, ils disparaissent, ils s'exécutent. C'est important d'être clair là-dessus, parce que vraiment, il y a cette mythologie ambiante et... Les gens aiment bien voir ça, la lutte entre le bien et le mal, entre Dieu et le diable. Mais ce n'est pas ça. Dieu contrôle toutes choses. Ne l'oublions jamais. Aujourd'hui. Qu'en faire aujourd'hui? Comment vivre cet enseignement, ce que nous découvrons dans ce texte aujourd'hui? Déjà aujourd'hui, où on constate que ce n'est pas notre préoccupation première, qu'on n'est pas comme ça confronté tous les deux jours à une possession. Déjà, il est bon de souligner qu'on n'y est pas confronté ici, en France, parce qu'il y a d'autres régions où c'est plus compliqué. Le combat spirituel et les manifestations surnaturelles ne sont pas comme ici en Europe. Mais bon, c'est quand même quelque chose qui est moins présent. Mais on peut aussi le lier à la période dans l'histoire du salut. Quand on lit la Bible, On n'en parle pas dans le reste du Nouveau Testament, on en parle dans les évangiles, dans les actes des apôtres, quand Jésus vient annoncer le royaume de Dieu, vient l'incarner, quelque chose d'unique dans l'histoire du monde. On le voit au début de l'acte des apôtres, quand les apôtres posent l'Église, ça aussi c'est quelque chose d'unique. Mais par exemple, dans les épîtres, où on a beaucoup de choses, où on apporte beaucoup de sujets, on ne parle pas du ministère d'exorcisme. Paul ne donne pas de conseils pour faire sortir les démons. Donc, ça nous donne une idée que ce n'est pas si fréquent que ça. Quand on regarde avant la venue de Jésus dans l'Ancien Testament, on ne voit pas comme ça de possession, de ministère d'exorciste parmi les prophètes. Donc, il y a déjà cet indice pour répondre à cette question, pourquoi est-ce qu'on en voit moins aujourd'hui, cet indice que c'est certainement lié à la période de l'histoire, que la période de la venue de Jésus, de la vie des apôtres, est une période unique et que le diable, voyant sa défaite incarnée en Jésus et en l'Église naissante, a mis toutes ses forces dans la bataille, comme un baroud d'honneur. Une autre hypothèse également, pour expliquer pourquoi il y en aurait moins, c'est que le diable s'adapte aussi au monde dans lequel nous vivons, aux croyances de l'époque. Et ça, C.S. Lewis le dit très bien dans son livre « Tactique du diable », que dans une société qui croit très fortement au surnaturel, le diable a tout intérêt à se manifester et à faire peur, à inspirer la crainte. Mais dans une société rationnelle comme la nôtre, il est moins efficace d'utiliser cette carte. Il est plus efficace de faire pencher les hommes vers le matérialisme, vers le scepticisme. Le diable, il s'en fiche qu'on reconnaisse qu'il existe, hein. Ce qu'il veut, c'est nous écarter de Dieu, nous écarter de Jésus-Christ. S'il peut nous écarter en faisant croire qu'il n'existe pas, il le fera avec joie si ça porte du résultat. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus aujourd'hui. Rien n'indique en tout cas que dans la Bible, ce soit fini. Alors si ça nous arrive, comment faire? On peut penser que tout chrétien peut donner cet ordre, que ce mandat d'exorcisme a été donné à l'Église et qu'un chrétien, s'il a une vie de communion profonde avec Dieu, peut, sur un simple ordre au nom de Jésus-Christ, demander à un esprit de sortir, si esprit il y a. On peut noter que Paul n'est pas seul pour faire cela. Jésus, quand il envoie ses disciples pour guérir et pour chasser les esprits, il les envoie deux par deux. Et je crois que c'est toujours prudent pour se frotter à ce genre de choses de ne pas le faire seul. Mais au moment de terminer notre exploration, j'aimerais élargir et rappeler que quand on travaille pour Dieu, il y a toujours de l'opposition. Et ce n'est pas toujours des esprits mauvais. Ce n'est pas toujours des possessions. On peut le voir dans le Nouveau Testament, Paul, les apôtres, Jésus. Finalement, on nous raconte peu d'exorcismes, peu de cas identifiés. Il y a de l'opposition de ceux qui ne croient pas. Opposition des chefs religieux influents qui veulent garder leur influence et qui voient ça comme une menace. Opposition des autorités. Et ces oppositions ne sont pas expliquées par des possessions. Il y a des raisons d'être contre l'Évangile. Et dans notre esprit, dans notre récit, ce qui fait le plus mal à la mission de Paul et ses compagnons à Philippe, ce n'est pas la possession de la jeune fille qui faisait du bruit à côté d'eux. Finalement, c'est les maîtres de la jeune fille, ceux qui l'exploitent, ceux qui se font de l'argent. C'est eux, quand ils seront contre et qu'ils agiront contre, qui arriveront à les faire quitter la ville. que nous aussi, nous aurons à faire face à l'opposition. Nous aussi, nous faisons face à l'opposition. Quand nous annonçons l'Évangile, l'opposition arrive. Parfois douce et subtile, parfois franche et directe. Que ce soit des moqueries, des tracasseries administratives, une vision de la laïcité étriquée et limitative qu'on essaye de nous imposer. Parfois une véritable agressivité. Et peut-être parfois, croiser des personnes possédées. Mais souvenons-nous, dans tous ces cas, Dieu est plus fort que cela. Dieu est tout puissant, il contrôle tout. Et c'est peut-être l'occasion de relire le passage de Romains 8, qu'on cite si souvent dans la louange, mais qu'on peut aussi citer là. Paul écrit « J'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Pour conclure, les démons, les possessions sont une réalité. La Bible en témoigne. Et ils se manifestent contre l'Évangile. Et si nous sommes fidèles à l'Évangile, fidèles à ce que Dieu, à ce que Jésus nous demande, nous pouvons être la cible, bien que ce soit rare. Mais de toute façon, nous faisons face à l'opposition parce que nous suivons Jésus. Et souvenons-nous, face à l'opposition, esprit mauvais, personne possédée ou toutes sortes d'épreuves, Dieu est le plus fort. Il est vainqueur. Il a déjà remporté la victoire. Ses puissances sont en sursis. En lui, nous n'avons rien à craindre. Béni soit son nom. Amen.